Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à tous et bonne année pour cette première émission 2016 de la Grande Tchatch, le ravi en partenariat avec Radio Grenouille, une émission aujourd'hui qui a pour thème « Ils font de la politique sans les partis politiques au quotidien ». Et cela après le tsunami FN au régional, l'état d'urgence, la disparition de la gauche en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la crise financière et identitaire. Tout ça vu des quartiers populaires et toutes ces problématiques sont accentuées. Pour en parler avec nous, trois invités aujourd'hui, trois acteurs de terrain. Mohamed Bensada, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'association Quartier Nord, Quartier Fort. Avec nous également Mathieu Laurentin, ex-président d'Attaque Marseille, en délicatesse avec la justice. C'est pas un titre, hein, c'est un fait. Vous avez Bonjour. Été mis en examen, ou serez probablement mis en examen pour le vol de chaises, oui, à la BNP, lors d'une action de réquisition citoyenne. Vous avez longtemps été engagé dans différents collectifs, Alternativa, Transition, Soutien aux Migrants 13. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous, Alain Fourest, monsieur Rencontre Tzigane, mais pas que. Ouais. Vous avez publié le cri d'alarme des Marseillais en colère. Pour vous interroger à mes côtés, Michel Guéraud. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, une tradition dans cette émission, c'est le portrait des invités, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Rien ne va plus. Les dernières élections ont illustré avec force la crise de l'offre et de la demande politique. Score astronomique de l'extrême droite, taux d'abstention élevé, record du vote blanc ou nul, élimination de toute la gauche dans l'Assemblée régionale. Pour parler de cette crise, dont les effets se font particulièrement sentir dans les quartiers marseillais, nous avons invité trois militants qui n'ont aucun mandat, ne dirigent aucun parti, mais dont les engagements sont éminemment politiques. Honneur aux jeunes avec Mathieu Laurentin. À 25 ans, vous avez déjà été président d'Attaque Marseille pendant 2 ans et vous restez membre actif de l'association altermondialiste dans la France en état d'urgence. Vous avez donc été placé en garde à vue le 15 janvier dernier. Vous êtes poursuivi, ça va arriver, suite à une plainte de la BNP pour vol en réunion et pour incitation au vol de chaises après une action de réquisition citoyenne, Rafi l'a rappelé. La désobéissance civile, vous l'avez déjà pratiquée avec les antipus, par exemple les déboulonneurs à Paris. Néo-marseillais, spécialiste de l'évaluation des politiques public, vous êtes notamment engagé avec le collectif Migrants 13 et aussi à Alternativa. Honneur aux persévérants avec Alain Fourest, économiste, urbaniste, ancien responsable de l'aménagement urbain à Lyon, Marseille et Fos-sur-Mer, responsable national de la politique de la ville dans les années 80. Vous êtes aussi le fondateur des Rencontres Tzigane, dont vous restez le président d'honneur. Indigné par la dégradation des quartiers entiers à l'abandon, inspiré par des figures, vous le dites vous-même, comme Stéphane Hessel ou Patrick Viveret, vous publiez un nouveau rapport, donc au titre très explicite, le cri d'alarme d'un Marseillais en colère. L'objectif numéro un que vous fixez, le partage du pouvoir de décision. On va en reparler. Honneur aux militants des quartiers populaires avec Mohamed Bensaada, manipulateur radio de profession. Vous passez aussi au scanner la vie locale en militant dans divers collectifs. Citons le collectif des quartiers populaires de Marseille, où vous retrouvez parfois Alain Fourest, qui milite pour une égalité des droits et de traitement. En 2013, le CQPN, pour ceux qui s'en souviennent, a listé 101 propositions pour les quartiers. On pourra y revenir. Après être passé chez les Verts, vous avez rejoint le Front de Gauche, sur les listes duquel vous figuriez aux dernières municipales à Marseille. Vous êtes également engagé dans l'association Quartier Nord, Quartier Fort. Et là, vous avez fort à faire, car, rappelons-nous, les 13e et 14e arrondissements de Marseille sont désormais aux mains de Stéphane Ravier, le sénateur-maire d'extrême droite. On vous le dit, rien ne va plus, mais les jeux, heureusement, ne sont jamais définitivement faits.
Alors, pour commencer, place à l'actualité avec cette semaine, le plan d'urgence pour l'emploi lancé par le président Hollande. 2 milliards d'euros sont sur la table, dont 1 milliard pour doubler le nombre de chômeurs en formation, un enjeu crucial pour le recul du chômage. Alors, première question, est-ce que ce plan arrive à vous convaincre, Mathieu Laurentin? Juste avant de répondre, je rappelle que le taux de chômage en Provence-Alpes-Côte d'Azur est de 11,6% contre 10% dans le reste de la France, et le taux de chômage à Marseille est de 13%. Alors, 2 milliards, dont 1 milliard pour la formation des chômeurs, ça vous convainc ?
Assez peu, en réalité. Je pense que le gros des mesures sur la question de l'emploi a déjà été fait par François Hollande. En réalité, c'est la question du CICE, voire même celui du crédit impôt recherche, qui ont été des pas en avant absolument catastrophiques pour l'emploi. Et je pense que c'est plus sur ces variables-là qu'on peut jouer. Évidemment, la formation en soi, c'est une mesure qui... qui paraît plutôt optimiste, mais je pense qu'il y a, eu beaucoup de recul avant cette petite avancée.
Mohamed Ben Saada, quand je disais 13% à Marseille, dans certains quartiers, notamment les quartiers nord, on arrive à des pointes à 40% de chômage, notamment la Castellane.
Ben je poursuis le propos en disant qu'effectivement, l'équation ne se pose pas simplement de la façon dont l'a établi le gouvernement, parce que 13%, certes, c'est un taux global, mais par qualité, ça peut atteindre des 40-50%. Il y a même des endroits où ça dépasse les 60%. Nous, en tant que militants des quartiers populaires, il y a un alpha et un oméga à notre engagement, c'est l'égalité. Alors on va même plus loin que la présentation que vous avez faite sur le côté égalitariste. On dit quelque chose qui n'est pas très français, mais on dit l'égalité pour tous. Parce que dans notre tête de militants, on sait très très bien que toutes les tartes à la crème, le vivre ensemble en fait partie, ne résoudront rien tant que cette égalité ne sera pas une égalité de fait. Et juste un mot pour aller dans le sens de ce que disait Mathieu. Alors, oui. Il parlait du CICE, le pacte de responsabilité a été une calamité absolue, où là aussi, encore une fois, on donne des milliards et des milliards au patronat, sans aucune contrepartie pour les salariés. Ça, rien. Il se promenait, M. Gattaz, avec un pins, 1 million d'emplois. Où sont les 1 million d'emplois?
Alain Forest, la politique de la ville. La politique de la ville, le premier plan banlieue a été lancé en 1977, il y a 40 ans. Une approche qui visait à aider spécifiquement les quartiers sensibles. Aujourd'hui, on remet encore une couche avec ce milliard pour la formation. Est-ce que finalement, quand on décrète 1 milliard pour la formation à Paris, est-ce que ça arrive jusqu'à Marseille?
D'abord, c'est une vraie question. En effet, est-ce qu'il y a la capacité réelle dans ce pays à former du jour au lendemain, comme ça, le double de demandeurs d'emploi? C'est une première question. Moi, j'en doute fort quand je vois les organisations du style l'AFPA ou la CPM, etc., qui sont toujours en difficulté pour retrouver même des candidats. Bon. Mais la question qui me semble plus grave, c'est l'espèce de, comment dirais-je, de discours aujourd'hui qui ne fait que rendre encore plus confus la situation. Parce que cette réalité des demandeurs d'emploi dans les quartiers populaires, hein, qui existe depuis de très très nombreuses années, c'était avec Dubedou les premières démarches qu'on a faites. Tant qu'il y aura des jeunes qui seront au chômage, hein, de façon aussi dramatique, eh bien la situation empirera. Et là, hélas, empirée. Le vrai problème du chômage dans ce pays, c'est pas... Bien sûr, c'est grave qu'il y ait beaucoup de chômeurs. Mais ce qui est encore plus grave dans des régions comme dans des villes comme Marseille ou dans certains quartiers populaires, c'est que ce que j'appelle le différentiel, c'est-à-dire la différence entre la réalité du chômage dans l'ensemble de la ville et puis dans ces quartiers-là, elle ne fait que s'accroître. Malgré les multiples opérations qu'on a montées, les missions locales qu'on a créées, les aides, les emplois jeunes, les emplois de ville, etc. Tout ça, c'était du discours qui a, hélas, donné un certain espoir à ces jeunes. Mais quand on regarde aujourd'hui, la réalité, cet espoir a disparu. Et le discours national, en disant on va former des jeunes, il tombe complètement à plat. Par exemple, il tombe à plat parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes demandeurs d'emploi sont formés, voire très formés, voire surformés par rapport à une réalité. Ils ont toute une série de filières de formation. Mais ceux qu'on appelle, qui tiennent les murs aujourd'hui, ce ne sont pas des bons à rien. Ce ne sont pas des gens incapables. Ce sont des gens qui ont des connaissances générales, qui ont des formations, qui ont fait des stages et qui aujourd'hui ne croient plus du tout dans ce genre de politique.
Alors, en 2014, 1300 quartiers populaires ont été ciblés pour les aider justement à combattre ces discriminations. Il y en avait 2600 avant. Mohamed Ben Saada, vous secouez la tête, ça ne semble pas vous convenir. 1300 quartiers, c'est beaucoup moins, donc une efficacité accrue, non?
C'est pas le tout de balancer des chiffres, 1300 quartiers ciblés. Non, il faut que les choses changent au niveau sociétal. Hein. Nous, on l'avait sorti effectivement à l'époque un petit livret où on faisait 101 propositions. C'était urgence sociétale. Il y a véritablement une révolution mentale dans l'ensemble de la société à réaliser. Est-ce que ces quartiers-là font partie de la République, puisqu'on parle beaucoup de République en ce moment? Est-ce que effectivement l'égalité, la mixité sociale, on entend toutes les mesures que veut prendre Madame Vallaud-Belkacem par rapport à la mixité dans les collèges, dans l'enseignement élémentaire et tout le secteur de l'éducation nationale? Mais j'ai l'impression qu'on est quand même toujours un petit peu dans la petite maison dans la prairie. Les rapports sociaux sont extrêmement extrêmement dur. Il faut être honnête, il ne faut pas se voiler. Je veux dire, vous avez ouvert l'émission sur la problématique du chômage, et je vous en remercie, parce que moi, je pense que c'est un des points qui réglera en partie toutes les autres dérives mortifères de notre société. On parle de communautarisme, mais le communautarisme, il vient du fait que, effectivement, les populations dans les quartiers populaires sont discriminées, ségrégées, topographiquement, géographiquement, c'est-à-dire qu'elles sont, elles sont confinées dans des quartiers, et qu'aujourd'hui, il n'y a même plus la rencontre entre des populations issues d'immigration postcoloniale ou autre, et des populations plus anciennes sur le territoire français, au niveau du travail. C'est-à-dire qu'il y a des générations et des générations, il y a des familles où il y a deux, trois générations de chômeurs qui se retrouvent sous le même toit à partir de ce moment-là. Comment est-ce que vous voulez que, créer une véritable cohésion sociale, un véritable sentiment d'appartenance à la même communauté nationale? C'est très compliqué, très compliqué.
Michel ?
Alors, on va revenir au quartier, mais toujours sur ce climat national, hein, dans l'actualité nationale, il y a l'état d'urgence. Alors, on parle, pour le coup, on s'éloigne de la question du chômage et on va, probablement, le Parlement va renouveler cet état d'urgence et on en voit des effets. Alors, peut-être... On parle de la question du caractère très dur des rapports sociaux. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous avec la BNP et qui vous vaut une garde à vue puis une mise en examen probablement?
Alors pour le cas de la BNP, ça a été assez clair. En réalité, quand ATTAC et d'autres associations ont lancé en amont de la COP21 l'idée de réquisitionner 196 chaises, c'est-à-dire le nombre de pays... qui pendant ce sommet sur le climat, c'était une manière très symbolique d'aller dans les banques, de récupérer le mobilier et tout simplement de dire que de l'utiliser de manière médiatique pour dire que l'argent de la transition écologique et sociale est là, il est juste planqué dans les paradis fiscaux. Et là, la réaction de la BNP a été très claire par rapport à d'autres banques, c'est que elle a envoyé en interne un mail disant à tous ces directeurs et directrices d'agence de ne rien faire, de nous laisser faire et qu'elle contre-attaquerait plus tard ce qu'elle a fait pour nous lundi 15 janvier à ATTAC Marseille avec la police qui est venue nous chercher à la maison pour passer de 9h à 5h au commissariat. Donc ça a été une contre-attaque qui était de toute façon préparée par la BNP à laquelle on s'attendait, et d'ailleurs ça fait partie de l'objet de la désobéissance civile, c'est de savoir que à l'issue, il peut y avoir un procès et de ne pas en avoir peur.
Concrètement, elles sont où ces chaises? Elles sont.
Alors, les chaises, elles ont été toutes montées à Montreuil, puisqu'il y avait un contre-sommet de la COP21. Et ces 196 chaises ont servi à porter la parole des mouvements altermondialistes, donc avec des grands noms des mouvements altermondialistes, pour rappeler notamment le rôle de l'évasion fiscale dans le fait que les pays. Et notamment les pays du Sud, dont on a beaucoup parlé pendant la COP21, n'avaient pas les moyens, les ressources pour s'adapter à la question du changement climatique, et que c'était le fait des grandes banques et des paradis fiscaux. Les banques sont, les chaises sont à Montreuil, et d'ailleurs le nombre de 196 a été largement dépassé, donc il va falloir trouver quelque chose à faire avec.
Alain Forest, l'état d'urgence et sa prorogation, vous en pensez quoi dans le contexte actuel?
Bon, je fais aussi partie de la Ligue des droits de l'homme, donc vous imaginez que l'analyse que nous faisons de l'état d'urgence, qui est une réduction dramatique de nos libertés et qu'il ne faut absolument pas poursuivre, même si à un moment donné, ça a été indispensable. Donc il y a d'ailleurs une manifestation samedi dans toute la France. Il y a une conférence faite par Henri Leclerc, qui est notre ancien président à Aix-en-Provence, mercredi, etc. Donc on va tout azimut, on se bat contre cette erreur dramatique du gouvernement et que l'opinion publique semble apprécier. Mais je pense que lorsqu'on ouvrira les yeux, on leur a ouvert les yeux.
Massivement, hein, les sondages, il faut s'en méfier, mais donne.
Alors par contre, je reviens sur l'état d'urgence massive de l'emploi. C'est ça le vrai problème,
oui.
L'état d'urgence.
Vous pensez que c'est, voilà,
effectivement... Et là, je voudrais simplement, puisqu'on s'adresse à Marseille, reparler de la situation marseillaise, parce qu'elle me semble la plus dramatique qui soit. Et je voudrais dire que j'accuse directement, je l'écris et je le rappelle, j'accuse l'ensemble des responsables politiques de cette ville d'avoir tout fait pour que la situation aujourd'hui soit ce qu'elle est, c'est-à-dire que ce différentiel de l'emploi, c'est-à-dire ce taux de chômage des jeunes dans les banlieues, Alors, des banlieues qui sont dans Marseille, il faudrait le rappeler ici pour cette ville, hein, la responsabilité, elle est directement engagée. Je voudrais simplement rappeler que la mairie de Marseille, le maire de Marseille, M. Gaudin, en tant que directeur de la mairie, enfin, employeur municipal, hein, de l'emploi municipal, de l'assistance publique, et des tramways, etc.
C'est symbolique, l'assistance publique. Symbolique, il préside l'assistance publique, mais c'est de manière symbolique.
D'accord, mais enfin, il a des responsabilités, lui et les autres, hein, parce qu'on va aussi intéresser, mettre en cause aussi un certain nombre d'organisations syndicales qui, paraît-il, décident tout à la mairie, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'il y a, quand on regarde les chiffres statistiques, hein, la moitié des emplois de cette ville sont des emplois publics. Bon, est-ce que ces employeurs-là, s'ils avaient depuis 20 ans fait l'effort à minima de recruter parmi leurs futurs employés un certain nombre de personnes de façon ségrégative. Et je dis bien ségrégative, ça veut dire positivement, c'est-à-dire qu'on fasse le choix prioritaire, comme ça a été décidé par l'État, de dire, puisqu'il y a ce différentiel, il faut tout faire pour le réduire. Eh bien, ça n'a pas été fait et ça continue. Oh, il y a eu quelques exemples par-ci, par-là, on a embauché deux ou trois jeunes. Mais je prends des exemples. Prenons simplement la SNCF. Moi, j'ai travaillé sur les emplois jeunes à la SNCF avec Karim Zeribi. Tiens, bon, il était chargé de ça. Le résultat, c'est quoi? Alors, je ne veux pas mettre en cause les employés dans cette entreprise ou dans ces entreprises publiques, EDF, etc. C'est vrai, quand on a un fils au chômage, eh ben, on dit, ben, plutôt que d'employer celui qui est à l'autre bout de la rue que je connais mal, eh ben, je vais faire embaucher mon fils. Mais cette réalité-là, elle est quand même directe. Donc, tant qu'on n'aura pas mis en cause la responsabilité de ces institutions, de ces employeurs, déjà publics, on pourrait, même chose, dire que la Banque de Paris des Pays-Bas, on pourrait se demander si la Banque de Paris des Pays-Bas a dans son programme un minimum d'emplois en préférence des quartiers, comme ça a été décidé nationalement.
Mohamed Ben Sada, la discrimination positive, forcément, ça passe par là. Les emplois publics, c'est ce qu'il faut, enfin, en tout cas un pourcentage. Est-ce que ce n'est pas une manière non plus de maintenir une espèce de dépendance, de tutelle, ces quartiers? Le développement passe aussi par cette discrimination dite positive?
Je voulais juste dire un mot pour répondre à la question sur l'état d'urgence.
Vous répondrez à la mienne après ?
Ouais, dans la foulée, juste dire que l'état d'urgence participe simplement de la théâtralité de l'élection de 2017, ni plus ni moins. Il me semble, je ne suis pas avocat, mais il me semble que tous les outils légaux en termes de justice, en termes de police et autres, étaient présents pour répondre à ça. Sauf qu'on a maintenant un super François Hollande qui s'est paré de tous les attributs du grand guerrier un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Bush en 2001. Ça ressemble peu ou prou à Stabila, quand notre président de la République. Donc oui, ça participe de la théâtralité. En termes d'efficacité, il n'y a pas grand-chose, puisqu'on vient d'apprendre qu'effectivement, sur les 3000 perquisitions, il y avait eu 4 mises en examen. Donc ça veut dire un petit peu l'efficacité de ce genre de trucs. Par contre, dans la vie de tous les jours, oui, moi, par exemple, pour ne citer que moi, j'ai été contrôlé 3 fois. Après, on arrive à d'autres problématiques qui sont la discrimination aux faciès et tout le reste. Est-ce que l'état d'urgence s'est fait pour emmerder la population un peu plus basanée de ce pays, ou est-ce qu'effectivement c'est fait pour répondre à une menace? Je me pose la question et je la pose à tout le monde.
La discrimination positive souhaitée par Alain Fourest, dans les emplois publics notamment.
Je suis forcé et contraint d'acquiescer à ce que dit Alain. Sur le principe, ça me pose toujours un problème. Mais dans la réalité des faits, la société est tellement verrouillée, tellement verrouillée, tellement cadenassée, tellement hermétique. Il n'y a pratiquement plus d'échange entre communautés, entre guillemets, entre communautés, que effectivement la discrimination positive est un des rares outils encore en capacité de ramener un semblant d'égalité. On peut plus faire autrement. On a un exemple, nous, parmi les membres du CQPM, d'un jeune qui est arrivé major de sa promotion en agronomie ou je ne sais quoi. L'intitulé est tellement compliqué que je ne sais même pas ce qu'il a fait, tellement c'est... Enfin bon, bref. Il a passé les 2 mois à envoyer des milliers et des milliers de CV, à faire du porte-à-porte chez les employeurs. Il n'a rien trouvé. À la fin de l'été, au début de l'année, ils ont organisé une grande fête, vous savez, avec les toques sur la tête et tout le reste pour les remises des diplômes. Et il s'est aperçu qu'il était le seul,
le seul à ne pas avoir d'emploi. C'est fou, alors qu'il est majeur de sa promotion. Si on ne déverrouille pas ça, moi je suis désolé, la discrimination positive, pourquoi pas, essayons, puisqu'on ne l'a pas essayé.
Alain Pourest, finalement, attendez, juste avant, ouais. pour bien s'il vous plaît. Tout ça, ça dépend quand même de la politique de la ville. Il y a un ministre, il y a un ministère.
Mais il faut qu'on en sorte de la politique de la ville. On veut le droit commun dans ces quartiers.
On veut plus de la politique de la ville. Au départ, on était sur la réhabilitation des bâtiments, tout ce qui favorise la vie sociale. Avec le temps, cette politique englobe de plus en plus de thématiques. l'éducation, la délinquance, l'emploi. Est-ce que finalement, on n'en demande pas trop pour en faire très peu et pour saupoudrer? Parce qu'il y a quand même des chiffres, le coût de la politique de la ville en 2015, c'est 450 millions d'euros sur un budget d'État de 380 milliards. Est-ce que, bon, vous allez me dire, c'est insuffisant?
Il est clair que les discours n'ont jamais été suivis de pratiques dans la réalité, sauf peut-être les doutes, les quelques premières années. Et sur la question de l'emploi, j'y reviens, il y a un problème très concret. Hein, c'est vrai que j'ai évoqué les emplois à caractère public, bien que EDF ou la SNCF, c'est plus tellement public. Enfin bon, peu importe. Je voudrais simplement rappeler une histoire relativement ancienne. Il y a quelques années de ça, ça remonte à une trentaine d'années. Il y a deux jeunes des quartiers nord de la cité Bassin, pour ne pas les nommer, Taramani et Saïd Bouknouch, qui avaient décidé de prendre en main, ils avaient une formation, ils avaient fait de la scolarisation, etc., de prendre en main un certain nombre de ces jeunes et de les aider à créer leur propre entreprise. On a, avec eux, on les a aidés, épaulés, on a travaillé ensemble, j'ai été administrateur pendant plusieurs années, de 3CI. 3CI, c'est une société qui aidait tous les jeunes des quartiers populaires, et notamment des quartiers nord de Marseille, à créer leur entreprise. Pendant une quinzaine d'années, on a créé plusieurs milliers d'emplois à travers ça. On a essaimé à Bordeaux, à Lyon, à Paris, etc. Cette association, remarquablement dynamique, avait employé jusqu'à pour organiser la formation, pour organiser l'aide à la création d'entreprises, les pépinières d'entreprises. Tout ça, ça a marché remarquablement pendant au moins une vingtaine d'années et on en était tous fiers, y compris nationalement. On a eu des prix. Figurez-vous que Taramani était même allé inviter un jour, comment ça s'appelle en Suisse, là, ce grand machin qu'on vient
de Davos.
À Davos. Il a été invité à Davos. Vous voyez un peu, Taramani venant de la cité Bassin. Eh bien, un jour, parce que M. Ramani a voulu mettre le nez dans la politique.
L'association était gérée par les fonds publics, notamment par le Conseil général.
Le Conseil général, voilà. Avec des fonds publics, etc. Bien sûr, c'était l'aide à la création d'entreprises. Mmh. Eh bien, un jour, un monsieur président du Conseil général que vous connaissez bien a décidé que ce monsieur n'avait pas le droit de faire de la politique, donc on coupait le vivre. Ça a été terminé. Hein. On a tout essayé. Ça se remonte en 2000. En 2000, l'association 3CI a fermé boutique parce qu'il n'y avait plus de moyens pour continuer à faire ce travail remarquable. Alors quand on vient me dire, vous voyez, on va inventer, on va mettre des formations à l'emploi, etc., etc., mais tout ça, je suis désolé, tout ça, c'est du discours qui n'a aucune réalité concrète, et surtout, qui laisse croire encore à quelques jeunes que c'est possible, et ça, c'est cet espoir qu'ils ont, qu'on leur donne, est dramatique, parce qu'il n'aboutira jamais.
Michel ?
Une question sur la crise de la demande politique. Hein. On arrive là, on est en janvier, mais il y a eu cette étape des régionales avec à nouveau un taux d'abstention très 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 élevé, en particulier dans les quartiers. Un vote extrême droite aussi très élevé. L'accusation, tout à l'heure vous lanciez une accusation aux politiques, mais visiblement il y a un rejet de tous les politiques, en tout cas pas à l'extrême droite. Alors vos réactions là-dessus, Mathieu ?
Oui, effectivement, c'est ce qu'on a pu voir pendant les régionales de fin 2015. Moi-même, je me suis abstenu et clairement, on voyait exactement les mêmes têtes que depuis des années. Et au lendemain des régionales, les mêmes têtes nous ont expliqué ce qu'elles disent depuis 25 ans, c'est qu'il fallait changer et renouveler le personnel politique. Apparemment, ils sont toujours là en janvier 2016.
C'est juste un problème de casting politique ou c'est un problème d'idée?
Non, parce que justement, là où je veux venir, c'est que on entend ces temps-ci parler beaucoup de primaires. Alors, il y a des sites qui se créent à foison pour organiser soit une primaire totalement transpartisane, soit une primaire de gauche dont on ne sait pas, personne ne sait qui veut bien y participer et qui veut bien que les autres y participent. On aura sûrement bientôt une primaire pour chaque candidat. Et je pense que ça, c'est la mauvaise question posée. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Et après, on verra qui sera la tête qui porte ça. Mais clairement, ça montre bien la logique intrinsèque des partis politiques, c'est que la première question, c'est qui on met devant, qui va porter le discours avant même de savoir ce qu'on va mettre dans sa bouche.
Mohamed, peut-être sur la question de l'abstention.
Qui on met devant c'est important ce qu'il dit, qui on met devant, mais pourquoi on le met devant surtout. La question, c'est que bon, je suis membre du Front de Gauche, hein, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Et
qui s'est pris une veste. Hein.
Qui s'est pris une gamelle. Qui est
clairement appelé à disparaître prochainement.
On verra. Alors ça les
Mélenchon.
Moi je suis pas de BC. Je suis pas de BC. On verra bien. Je sais pas que Mélenchon qui décide de ce qui se passe dans le Front de Gauche. Mais bon, pourquoi on en arrive à cette crise là? Bah, tu parlais de qui on met devant et pourquoi on le met devant. On met pas quelqu'un devant simplement parce qu'il est censé avoir la tête qui colle à l'emploi. C'est pas ça, c'est pas une histoire de casting, c'est une histoire de personnification. Plus que de changer la représentativité, c'est la représentation dans le conscient et l'inconscient collectif qu'il faut changer par rapport, et là je prêche pour ma paroisse, à l'image qu'on se fait des quartiers populaires. Moi je sais qu'il y a des tas et des tas de militants, pour en connaître des dizaines et des dizaines, qui auraient pu avoir des carrières politiques beaucoup plus... importante entre guillemets à l'intérieur des exécutifs, à l'intérieur des mairies, des conseils régionaux ou autres, qui auraient pu changer peu ou prou la situation dans laquelle on se trouve. Mais effectivement, et là je mets les pieds dans le plat, il s'agit même pas d'une lutte des classes ou d'une lutte des races, c'est vraiment en un mot une lutte des places. Ça, il faut le dire clairement. Je veux dire, il y a une espèce de cristallisation, une fois que les gens sont rentrés dans une fonction, ils ne peuvent plus la quitter. Ça pose la question de la professionnalisation de la politique. C'est le débat à la mode actuellement. Mais c'est un débat, c'est une question qu'on pose depuis très très longtemps.
Dans les 101 propositions, ouais. Il y avait l'interdiction du cumul des mandats.
Absolument, hein, absolument. Et pas que. Il y a des tas d'autres mesures qui pourraient être prises. Mais surtout, il y a une prise de conscience réelle que et pour parler du Front de Gauche, les gens sont conscients qu'il faut changer à l'intérieur du Front de Gauche. Juste, je termine là-dessus. Ils sont conscients qu'il faut changer, mais pas assez vite. Or, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Les échéances passent les unes après les autres et l'écart est de plus en plus flagrant entre la République, les institutions, les échéances électorales et toute une partie de la population des quartiers populaires qui ne se reconnaît plus dans tout ce cirque-là.
Alain Forest, oui, le politique dans les quartiers, finalement, c'est celui qui apporte la solution ou c'est celui qui se contente de gérer la crise jusqu'à la prochaine élection?
Oui, moi je dirais qu'on ne peut pas se réjouir du tout ni se satisfaire de la déliquescence des partis politiques. Ils sont un rôle indispensable à la démocratie. C'est vrai que c'est grave que la démocratie soit aujourd'hui réduite à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une représentativité pas satisfaisante. Prenons le cas de Marseille. Vous savez tous combien le maire de Marseille a été élu, avec combien de voix ? Moins de 20 000 voix dans son arrondissement. Le système électoral marseillais est totalement pervers, hein, qui aboutit à finalement à ce qu'il y ait un petit groupe d'amis autour de M. Godin, hein, qui tiennent la majorité, non seulement à Marseille, mais maintenant au niveau de l'agglomération et au niveau de Marseille Métropole, dans les conditions invraisemblables, grand-guignolesques dans lesquelles on vit. Donc d'accord, les partis politiques, hélas, sont dans une situation dramatique aujourd'hui et on ne peut plus faire confiance aux leurs responsables. Il y a plusieurs raisons à ça. La première notamment, c'est que moi je constate que sur le terrain et dans les quartiers, la connaissance, la capacité, l'intelligence sociale d'une bonne partie de la population est largement supérieure, j'allais dire, à celle de ceux qui nous représentent. Hein, soyons clairs. Il y a un niveau de scolarisation qui a été atteint grâce à l'éducation nationale. Il y a des connaissances, il y a des diplômes. Et la plupart des gens, ils en savent plus sur la réalité de leur quartier, sur les questions qui doivent être résolues, que les élus auxquels ils vont faire face. Donc ça, c'est un vrai drame à Marseille. Hein, ne le nions pas. Alors, est-ce qu'il faut dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Bien sûr que non. Il y a heureusement dans cette ville une dynamique, des capacités d'intelligence collective qui naissent à gauche, à droite, de tous les côtés, etc. et qui mériteraient enfin un jour en effet de se synthétiser pour dire ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il nous faut d'autres élus, il faut d'autres modes de... Il faut enfin que les élus écoutent ceux pour lesquels et qui partagent le pouvoir. C'est ça la question. Pas seulement nous écouter, de venir dans des réunions, etc. C'est le partage du pouvoir. C'est comme ça que dans la politique de la ville, depuis 40 ans maintenant, on dit il faut que les habitants aient droit à dire ce qu'ils ont à dire sur leur quartier et participer au changement.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi Radio Grenouille. On parle de politique vue par les gens de terrain. Alain Fourest, vous parliez tout à l'heure, vous disiez il faut d'autres politiques. Votre vœu a été exaucé, puisque dans le 13-14, aujourd'hui, c'est le Front National qui gère la mairie. C'est une partie de la population qui l'a souhaité. Et finalement, on fait quoi? On dit non, on reste avec les partis classiques, ou est-ce qu'on admet que d'autres expériences soient tentées?
J'entends en effet ce matin que le Front National décide de faire des collectifs dans les quartiers. Bon, c'est là encore...
Au niveau national.
Hein. C'est une manière... Le Front National, bien sûr. C'est une manière aussi de faire du clientélisme, comme d'habitude, sur des propos forcément mensongers. Hein, on voit bien ce qui se passe par rapport... Enfin, l'idéologie générale du Front National, personne ne veut sérieusement croire qu'elle est une idéologie égalitaire qui va permettre aux habitants de ces quartiers de retrouver enfin un peu de dignité. Hein. Même si certains se laissent piéger, c'est clair, hein, on peut évidemment... le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Moi, j'ai vécu dans ces quartiers-là depuis un certain nombre d'années, hein, et j'ai vu comment le Parti communiste, peu à peu, s'était de fait retiré progressivement. Le Parti socialiste avait utilisé le clientélisme à bout de bras, comme on en tient les conséquences aujourd'hui. Je ne vais pas citer de nom, mais tel ou tel personnage qui est toujours pas, qui est toujours à l'Assemblée nationale, alors qu'il devrait être, probablement être ailleurs. Bon, et ainsi de suite. Donc, la déliquescence de l'appareil politique a conduit, en effet, un certain nombre de personnes peu formées politiquement, hein, à répondre à un certain nombre de discours un peu démagogiques, c'est le moins qu'on puisse dire, voire de discours racistes, hein, parce que quand tel ou tel habitant des cités d'origine européenne, on va dire, pour pas donner autre chose, hein, se trouve en effet entouré d'un certain nombre de populations qui viennent de l'extérieur, on comprend qu'il y a des réactions de ce genre. Et le Front National ne fait que souffler sur le feu, qu'aggraver les clivages et qu'aggraver les risques de conflits qui sont aujourd'hui extrêmement présents. Hein. On pourra revenir sur les conflits là-dessus. Internes dans ces quartiers-là. Moi, je les sens monter de façon extrêmement inquiétante.
Mathieu Laurentin, aujourd'hui, c'est un peu la faillite. Je disais tout à l'heure, vous étiez ex-président d'Attac. Vous avez fait partie de différents collectifs politiques qui aspiraient à faire de la politique autrement. Aujourd'hui, c'est clairement un échec, puisque les gens préfèrent des idées qui sont beaucoup plus simples, celles du Front National, une préférence nationale, le repli sur soi, plus de sécurité en apparence. Vous dites finalement, on s'est trompé dans la manière dont on a présenté les choses ou les choses...
Non, Attac, c'est pas un échec. Attac, ça revit tous les jours, partout. Allez.
Alors, Attac déjà, donc, comme vous, on n'est pas un parti politique. Évidemment, on se classe sur l'échiquier politique à la gauche de l'échiquier politique. Il y a effectivement...
Enfin, on est quand même loin de la période des caravanes des hommes politiques et femmes politiques qui allaient à Porto Alegre. Hein.
Oui, effectivement, on se retrouve un peu piégé et il faut doubler au piège. On parlait tout à l'heure de la politique de l'emploi, il faut doubler au piège du Front National. Le piège, et ça rejoint un peu la question des élections et de la politique, du fonctionnement tout simplement de la Ve République, qui fait que il n'y avait que deux partis, l'UMP, maintenant les Républicains, et le Parti Socialiste, qui avaient peut-être la possibilité d'être élus et qui étaient donc un peu l'alpha et l'oméga, et qui sont finalement effectivement aujourd'hui rejoints par le Front National et pas par la gauche du Parti Socialiste. C'est sûrement un échec dans la façon d'expliquer les choses, dans la façon de parler aux gens. C'est sûrement aussi un échec d'entre-soi. Il y a énormément de constats à tirer de cet échec.
Mohamed Bensada, le Front National qui trouve écho aujourd'hui dans les quartiers, et une banalisation, y compris de ceux qu'on pensait être immunisés contre ces idées-là.
S'il trouve écho dans les quartiers, c'est en partie par le biais de toute la sphère soralienne et dieudonniste. Hein. En gros, c'est le gros contingent, entre guillemets, des gens qui finissent par basculer au FN viennent sur des histoires de complotisme, d'illuminatif, ou je ne sais quoi. Mais il faut en être conscient, parce que ça peut nous faire sourire, mais quand on est au contact des habitants et puis qu'on échange au pied des flamands avec un jeune qui tient un discours quasi marxiste et du coup on se dit putain, banco, j'ai gagné ma journée, j'ai réussi à convaincre les habitants, et qu'au détour de la conversation
il finit par vous dire non, mais en fait, tout ça, c'est des conneries parce qu'on sait très bien que c'est géré dans des cabinets occultes, etc. Là, ça, on tombe de très haut. Je ne sais pas si effectivement le FN y est pour quelque chose. L'ère du temps est pour quelque chose dans les résultats du FN. Vraiment.
En même temps, Alain Fourest, pardon, pas Alain Soral, Alain Fourest disait qu'il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Comment est-ce qu'on peut être diplômé et ne pas être de facto hermétique à ces idées de complot ?
Rafi, dans nos quartiers, les gens ne votent pas. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Parce qu'ils ont des millions de raisons de ne pas voter. Je le redis encore une fois, ils ont des millions de raisons de ne pas voter. Tout est fait pour qu'ils ne votent pas. Alors, il y en a quelques-uns qui votent pour le FN. Je pense que ça reste encore ultra minoritaire. J'en suis convaincu. Par contre, moi, je ne me cache pas derrière la responsabilité d'une certaine gauche. La majorité... puisque vous parliez tout à l'heure des arrondissements qui concernent particulièrement Quartier Nord, Quartier Fort, le 13e et le 14e, vous parliez de Ravier. Ravier arrive là parce qu'il y a des mandats précédents qui sont calamiteux en termes de clientélisme, en termes de népotisme, en termes de discrimination, en termes de tout ce qui fait que les gens se sont éloignés et ont été écœurés de la politique. Donc effectivement, dans nos quartiers, on ne vote pas, et c'est ça la grosse problématique. C'est pas le Front National. Le Front National, il répond à un instinct de colère, de coup de tête qu'on a envie de mettre à un moment donné. Ou alors, je crois pas à autre chose.
Un point d'info et une question. Le point d'info, c'est qu'au régional, effectivement, on a plus voté à Marseille dans Front National dans le 8e, dans le 12e, que dans le 13, 14, 15 et 16e arrondissement. Donc ça, c'est un fait. Et la question, c'est alors Stéphane Ravier, le sénateur maire du 13, 14, finalement, c'est quoi son principal défaut, c'est d'être pire que les autres, dangereux.
Il a une qualité d'avoir ce garçon.
Ou d'être exactement comme les autres, c'est-à-dire de reproduire finalement les systèmes clientélistes et autres.
Exactement la même chose. Il est dans un jeu ultra ambigu d'ailleurs, au sujet de la mosquée de la Busserine. On voit très très bien le jeu qu'il entretient, assez hallucinant, puisqu'il tient un double discours d'un côté quand il est avec ses ouailles et de l'autre côté quand il se retrouve confronté à la réalité. Et à l'état de droit. Nous sommes toujours dans un état de droit, Dieu merci. Et c'est ça qui gêne le Front National, c'est qu'à partir du moment où eux auront le pouvoir, ils changeront les règles de la donne. Mais pour l'instant, ils jouent avec les règles de la démocratie de la République. Donc, pour l'instant, entre guillemets, on est protégé. Et moi, j'invite vraiment les gens qui sont attirés, qui hésitent, qui sont un petit peu troublés par tout ce que fait le FN en ce moment dans les quartiers, c'est-à-dire cette espèce d'opération de séduction. Ben, c'est vrai, le gars, il est athlétique, il a l'arrêt sur le côté, le plastic smile et tout le reste. Mais sous le costume, il y a une chemise brune, noire. Et je veux pas ramener encore le discours parce qu'on dit qu'effectivement, ça ne fonctionne pas, mais c'est la vérité. Ce type-là, quand vous parlez avec lui, moi j'ai eu 2-3 accrochages avec lui, au bout du bout, quand il est confronté au fait qu'on lui dit « Mais moi, je n'ai aucun complexe d'infériorité ou de francité vis-à-vis de vous, monsieur Ravier. Aucun. Je pense français, j'aime français, je mange français, je rêve en français, donc je ne suis pas moins français que vous. » Là, il vous sort sa carte maîtresse « Mais moi, je suis gaulois. » À partir de ce moment-là, on sait qu'il y a français et français de papier. Et c'est en cela, je ne sais pas si on déborde sur le débat, mais que je suis vraiment, mais vraiment dévasté par toute cette histoire de déchéance de nationalité. Là, Hollande a vraiment joué le jeu. Hollande, Valls, c'est tous ceux qui l'ont conseillé dans cette histoire-là, ont vraiment joué le jeu du Front National. Et vont avoir une responsabilité historique vis-à-vis des événements à venir. Par rapport à
moi, je confirme tout à fait cette position, en précisant une chose par rapport à ces jeunes, entre guillemets, formés, qui votent Front National. D'abord, c'est, je crois, l'exception, heureusement. Mais même ça, je pense que c'est pour eux une façon, un cri de révolte, en disant, voilà, voilà où on en est arrivé, voilà où les responsables politiques nous ont menés, donc on vote ça une façon de se révolter. Mais aussi, et ce qu'on oublie de dire peut-être, Mohamed, c'est que le problème aussi, c'est pas seulement ceux qui votent, c'est tous ceux qui ne votent pas ou qui ne peuvent pas voter. On revient sur les fameuses promesses électorales de faire voter les parents, les habitants d'origine étrangère.
Ça, mais, c'est pas un combat des années 80-90, c'est ce qu'aujourd'hui on en met encore.
Pareil, ça, on revient ça à chaque fois on plaide, on dit la Ligue des droits de l'homme, etc. Bon, c'est les vieilles lubies, etc. Non, c'est encore la réalité qui est ressentie c'était aujourd'hui, même si c'est marginal en termes de nombre. Mais le problème de l'abstention, c'est ça qui est dramatique. La gravité de la situation, c'est pas tellement qu'est un vote au Front National. Moi, à la limite, c'est la démocratie, ils veulent faire ce qu'ils veulent, c'est pas moi mon problème. C'est les centaines de milliers de Marseillais qui ne se font pas aller voter parce qu'ils en ont ras-le-bol de tout ça. Et c'est ceux-là qu'il faut arriver à convaincre.
Mathieu Laurentin.
Il faut reprendre la parole et faire de la politique avec nous.
Mathieu Laurentin, donc un abstentionniste dans le studio, on ne va pas faire le procès de l'abstention, mais quand même, c'est-à-dire quand on est militant politique dans le monde associatif, je ne sais pas comment dire les choses, comme vous, est-ce qu'à un moment, face à des dangers comme celui de l'extrême droite, face à la situation des quartiers, comment on peut assumer cette position-là et est-ce que c'est satisfaisant et comment faire politique sans se rendre aux urnes?
Alors c'est sûr que c'est une position qui n'est pas toujours facile à tenir et c'est la politique du pire contre la politique du moins pire. Et c'est sûr que quand Marion Maréchal Le Pen se lance par exemple sur les questions du planning familial et donc déborde encore plus qu'elle ne débordait déjà, ça pose question et j'ai d'ailleurs des amis qui se sont répartis en groupe pour que certains au second tour aillent voter Estrosi et d'autres se sont abstenus. C'était un espèce de casse-tête. Mais moi, pour le coup, j'assume la politique du pire parce qu'on a été mis en porte-à-faux pas uniquement par le FN, mais notamment aussi par le gouvernement. Et donc, il y a un moment où le chantage au vote, il devient absolument insupportable, surtout après ces 2-3 années de mandat de François Hollande. Où voilà, on va voter en état d'urgence, on va voter avec les politiques économiques qu'on connaît. Et il y a un moment où, même si c'est assez dur à tenir, ça devient insupportable.
Alors Mohamed Bensalda, on parle du Front National. Le 13 décembre 2015, le FN a échoué aux portes du pouvoir pour les régionales, mais quand même réalisé le meilleur score de son histoire au niveau national, 6 800 000 voix au second tour des régionales, avec un score de 40% d'abstention. On n'est plus là dans le vote bras d'honneur, on est vraiment dans un vote de conviction. Est-ce que vous, acteur de terrain, ça vous pousse à changer votre logiciel?
Comment est-ce qu'on peut changer notre logiciel face à...
Pour expliquer, pour dire, pour...
Pour le militant des quartiers populaires, je le redis encore, peut-être qu'effectivement il y a une tentative d'implantation du FN dans les quartiers populaires, mais elle est vouée à l'échec parce que intrinsèquement dans les discours même du FN, on voit bien qu'il y a une stigmatisation permanente de ces quartiers-là. Je veux dire, Ravier, quand il prend la parole, c'est pour et quand il parle de ces quartiers-là, il parle simplement, basiquement, trivialement de racailles, tout simplement. Il était venu entre guillemets à la Busserine, d'ailleurs il avait été éjecté manu militari par des amis de la famille d'un jeune qui avait été tué à ce moment-là pour faire son show. Il s'était fait accompagner de quelques médias et en gros il avait une posture complètement obscène alors que la famille était en deuil, des femmes pleuraient dans... Lui, il était là face caméra ou micro ouvert à expliquer qu'effectivement, entre guillemets, comme Sarkozy à l'époque, il fallait débarrasser les quartiers de la racaille. Mais quand il emploie le terme de racaille, il met tout le monde dans le même sac. Moi, je suis d'accord avec vous. Le gros problème, c'est les 6 800 000. Et ça se traduit au quotidien, même en dehors des quartiers populaires, parce que moi, j'ai quand même une vie schizophrène, c'est-à-dire que je suis dans les quartiers populaire, mais en même temps, je suis le français moyen qui va travailler dans un milieu où il y a beaucoup moins de gens issus d'origine maghrébine ou africaine, c'est-à-dire je vais à mon travail, et j'ai vu que des tabous ont volé en éclats, mais ça c'est une faillite des idées de la gauche, une faillite des politiques qui ont été menées en termes d'intégration, même si je ne suis pas intégrationniste pour un sou dans cette histoire-là, mais on a reculé sur tout ce qui faisait effectivement... tabou à l'époque, c'est-à-dire que oui, là on parle plus que de vivre ensemble sans poser les conditions du vivre ensemble. On parle de lutte antiraciste sans redéfinir la lutte antiraciste à la base, parce que dès le départ il faut reconfigurer la lutte antiraciste. Qu'est-ce que c'est que le racisme et comment on le combat? Là au quotidien, il y a des gens qui sont racistes mais qui s'en rendent même pas compte. Le fameux « oui, mais je parle pas de toi », mais bon, je pense qu'on l'a tous vécu.
Alain Prouest, Marine Le Pen parle a cité une formule, les mondialistes contre les patriotes. Là, vous êtes directement visé, puisque vous êtes pour la défense et pour le sans-frontières, on va dire.
Moi, je suis à la fois mondialiste et patriote, bien sûr. Mais simplement, par rapport au logiciel que vous évoquez tout à l'heure, notre position par rapport à l'électorat, ma position. Moi, il y a 50 ans que je me bats contre le Front National, contre Jean-Marie Le Pen en particulier, avec la Ligue des droits de l'homme, j'étais responsable régional, national, etc. Nous avons fait avec Ralph Front de multiples manifestations régulièrement, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rejet de cette manière-là, frontale du Front National, n'est plus efficace. Hein, faut bien le reconnaître objectivement. Et notamment le phénomène dit de banalisation, qui camoufle derrière une idéologie qui reste profondément d'extrême droite, radicale, raciste, etc. Bon, ça c'est clair. Donc il faut qu'on prenne en effet des moyens un peu différents. Le premier des moyens, c'est en effet un travail d'information, un travail de sensibilisation de l'opinion et de dénonciation des faux-semblants, de dénonciation des discours qui, à chaque instant, sont totalement contradictoires par rapport aux pratiques, de dénonciation d'un certain nombre d'actions aujourd'hui du Front National qui se rapprochent exactement de celles des autres partis en termes de magouilles, de combines, d'électorat, de pompe à fric avec la Russie par exemple, etc. Enfin, tout ça, cette réalité de ce parti-là qui est, j'allais dire, d'une certaine manière pire que les autres et qui montre au moins équivalent aux autres. Donc il faut qu'on se donne des outils, en effet, qui montrent au cas par cas, le Front National dit ça, fait ça, c'est le contraire qu'il faut faire et voilà pourquoi. Hein, donc c'est plus opérationnel. Il s'agit de convaincre un certain nombre de gens des erreurs dans lesquelles ils tombent en adhérant à cette organisation.
Alain Forest, en même temps, on ne va pas parler par litote pendant toute l'émission, il y a aussi des réalités, ce qu'on appelle des réalités de terrain, des gens qui subissent ou qui vivent une espèce de crispation identitaire. Ouais. Il y a l'intégrisme d'un côté, le renfermement sur soi de l'autre. Ouais. Ça, c'est une réalité. Le politique n'est pas responsable de ça.
Si,
je veux dire, le terrorisme islamique existe, c'est une réalité.
La ségrégation ethnique, la ségrégation sociale qui est mise à l'œuvre dans les quartiers populaires et tout particulièrement à Marseille, j'insiste à nouveau, hein, car c'est pas partout ailleurs, hein, cette ségrégation est de fait à l'origine de cette radicalisation, de ce désespoir d'un certain nombre de gens. Et je rajoute en effet le fameux processus de la déchéance de nationalité est absolument dramatique. Moi j'ai encore une réunion samedi matin avec un certain nombre d'habitants de ces quartiers-là. Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire. J'ai un certain nombre d'amis qui ont maintenant 40-50 ans de l'âge de Mohamed, etc., qui me disent mais on a tout fait pour être intégré, pour disparaître en tant que notre histoire, etc., etc. Et voilà tout d'un coup qu'avec une phrase dans une décision au Conseil par le président de la République, voilà qu'on se retrouve ramené à tout ce qu'on a tenté de faire disparaître. Certains continuent à dire nous sommes de cette réalité-là, nous sommes français, mais aussi nous ne nions pas notre histoire, nous ne nions pas nos origines, nous ne nions pas le colonialisme. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont définitivement marqués par ce qui vient de se passer, et c'est dramatique.
Mohamed Ben Sada, le terrorisme islamique, la montée de l'intégrisme islamique, selon la formule de Valls, expliquer, c'est comprendre, donc on n'explique pas et on ne cherche pas à comprendre. Vous ne partagez pas cette formule, j'imagine ? Enfin, c'est un fait, il y a une réalité.
Je
quand
partage
même.
Pas grand
L'augmentation
chose avec...
de l'intégrisme islamique existe.
Je ne partage pas grand-chose avec M. Valls. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, en préambule, quand vous avez parlé du chômage et effectivement de la vexité, de la cohésion. Il faut que la France et que la République française devienne vraiment égalitaire, que le triptyque républicain soit une réalité, pas juste une espèce de...
Vous pensez que c'est parce que c'est pas inégalitaire que ça pousse les gens davantage
mais
à les mosquées?
Mais évidemment, il n'y a pas d'alternative. Je veux dire, quand vous n'avez aucune perspective d'avenir sur une, deux, trois générations, que vous êtes discriminé constamment, quand ce soit en termes d'accès à l'emploi, en termes d'accès au logement, en termes d'accès aux soins, en termes d'éducation, de culture, et que vous avez... intégrer le fait que vous étiez de toute manière un sous-citoyen, parce que la véritable question centrale par rapport à ces quartiers populaires, et c'est une question que nous avons posée dans les 101 propositions à l'ensemble de la communauté nationale, c'est-à-dire quel statut attribuez-vous à cette population et à ces citoyens-là ? Sommes-nous véritablement des Français à part entière, ou sommes-nous une espèce des espèces de sous-français? Et alors à ce moment-là, effectivement, c'est le communautarisme qui gagne, c'est le Front National qui gagne.
Michel. On approche un peu de la fin et peut-être insister sur comment on reconstruit l'offre politique au sens large du terme, comment peut-être on recrée des alternatives. Mathieu Laurentin, enfin, comment, en particulier quand on ne va pas forcément dans les partis, on peut imaginer, essayer de construire des alternatives. Et en même temps, est-ce que, deuxième question peut-être par rapport à vos engagements, est-ce qu'il y a moyen de faire connexion avec les enjeux qui sont ceux des quartiers populaires dont on parle beaucoup dans l'émission, hein, parce qu'Alternatiba, peut-être, Attaque, c'est un autre univers, peut-être un peu trop.
Alors, sur le premier point, effectivement, la question la place des partis politiques n'est pas forcément centrale dans la question de la politique et de ce qu'on fait chacun au jour le jour, qui a au moins autant d'influence sûrement que le bulletin de vote qui est mis dans l'urne tous les 4-5 ans. Et donc c'est là aussi le travail des associations, c'est-à-dire que au quotidien, et donc pas avant l'échéance de chaque mandat ou de chaque élection, il y a un travail des associations sur le terrain, local, que ce soit dans les pratiques de consommation, que ce soit dans le vivre ensemble, mais un vrai vivre ensemble qui se construit pas de façon hyper institutionnelle et qui tombe d'en haut. Et c'est juste la façon de vivre tous les jours qui est en soi une politique sur bien des points. Et sur la question des quartiers populaires, ça a été encore une fois l'objet d'un débat pendant l'assemblée d'Attaque Marseille samedi. Et effectivement, il faut le reconnaître, c'est un point faible et terriblement faible d'une bonne partie des associations, et notamment de celles qui se réclament de l'altermondialisme. Alors on peut trouver, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à propos plutôt des partis, mais qui se retrouvent dans les associations, c'est le problème de l'entre-soi, c'est le problème de peut-être d'une certaine flemme à prendre le temps de travailler des contacts alors qu'on a cette espèce de confort intellectuel à être avec des gens qui sont d'accord avec nous. Et c'est toutes ces choses-là qui se travaillent avec, évidemment, ceux qui sont déjà dans les quartiers populaires.
Alain Fourest, le gouvernement et toute la classe politique et l'ensemble des Français aussi, quelque part, à travers les sondages, ont entamé une espèce de chasse au comportement dit non républicain. Vous en pensez quoi ?
Excusez-moi, j'ai mal entendu la formule.
Je disais que la mode était à la chasse au comportement dit non républicain. Alors c'est très vaste, hein, ça va on ne chante pas la Marseillaise, on ne tient pas une minute de silence, ça va à beaucoup de choses aujourd'hui.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire non républicain ? Moi j'ai l'impression de manifester souvent dans les campagnes que vous venez d'évoquer.
Par exemple, hein. Manifester alors que l'état d'urgence est décrété, c'est vu comme
c'est
non républicain.
Le droit de manifestation, c'est un droit inscrit dans la Constitution et pour lequel nous nous battrons jusqu'au bout pour qu'il soit maintenu. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir à un aspect qui n'a pas été évoqué jusqu'ici, qui est la situation particulière de Marseille. Hein. Hélas, régulièrement, on entend la police, les médias nous faire état des règlements de compte, etc. Je voudrais revenir un instant là-dessus parce que c'est une question quand même assez spécifique à Marseille. Hein, ces fameux morts qu'on voit régulièrement, hein, des jeunes qui sont tués, etc., dans des conditions dramatiques. D'ailleurs, la plupart des ces jeunes ont des parents, ont des familles, et je me mets souvent à leur place en pensant comment ils peuvent réagir par rapport à ce qu'on fait. Un instant, je m'arrête là-dessus parce que la responsabilité politique aussi, elle est là considérable. Il y a quelques années, M. Godin se félicitait que, par exemple, à Marseille, tout était tranquille parce que dans les quartiers nord, on n'avait pas bougé comme on avait bougé dans la région parisienne. Et il disait, c'est à cause des associations, etc., etc. Moi, il se trouve que ça fait de nombreuses années que je suis en contact avec ces quartiers et la réalité, elle est hélas un peu différente. Certes, il y a des associations qui font du très bon boulot, qui essayent de travailler avec les jeunes, avec les mamans, etc. Je pense à Sheba, je pense à, etc., multiples structures. Mais il y a aussi, malheureusement, hein, cette intervention dramatique des mécanismes de perversion par l'intermédiaire de l'ensemble des trafics essentiellement, bien sûr, autour des drogues diverses, hein, et particulièrement du hash, mais aussi autour des autres trafics gérés par des organisations internationales, des narcotrafiquants, etc. Or, la conséquence directe de ça, c'est bien sûr le fait qu'au jour d'aujourd'hui, hein, une partie de ces jeunes, de ces familles qui n'ont pas de ressources, ont trouvé là, j'allais dire, assez naturellement, des moyens de subvenir à la réalité de leurs besoins. Peut-être parfois trop, hein, mais on n'a pas à juger là-dessus. Mais soyons clairs, l'essentiel des résultats économiques de ce trafic, il va pour faire vivre et survivre une partie de ces familles, y compris des jeunes. Hein. Et ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'on n'aura pas éradiqué le système du chômage, hein, cette question-là demeurera, soyons clairs, l'essentiel des consommateurs.
Une question pour vous concernant, mais par exemple, vous lancez un coup de colère, un cri de colère, vous pointez un certain nombre d'objectifs, le numéro un, par exemple, c'est améliorer le partage, partager le pouvoir de décision des habitants des quartiers, vous parlez de dépénalisation, etc. Mais comment on fait, avec qui on fait, puisque vous faites le constat que justement le partenaire politique, l'acteur politique est déficient. Ouais. Comment on contourne cet obstacle-là ?
Cette question de la dépénalisation, je dis bien dépénalisation du hash, hein, soyons clairs, hein, je ne suis pas pour toute drogue, etc. Je préciserai que je trouve que je n'ai jamais fumé je bois un peu, hein, bon, je, voilà, bon, peu importe. Mais il faut être clair là-dessus. Cette question-là, elle est aujourd'hui un des outils, je ne dis pas le seul, pour tenter, avec des systèmes compliqués, ce n'est pas du jour au lendemain. Je constate simplement que moi, j'ai signé, il y a déjà une quinzaine d'années, ce qu'on appelle l'appel du 18 juin. Juin, J-O-I-N-T. Mmh. Bon, on est quand même quelques en France, quelques spécialistes, quelques politologues, quelques sociologues qui estiment qu'il y a là un vice de forme, une hypocrisie radicale à l'intérieur de la société française. Bon, d'autres pays ont compris ça. Aux États-Unis, au Venezuela, partout dans le monde, en Suisse, voire même, etc. Donc ce mécanisme qui laisse croire que parce que cette drogue-là, ce trafic-là, hein, est complètement dramatique et qu'il faut continuer à mettre uniquement les forces de l'ordre, quand je vois simplement les résultats que la police est fière parce qu'on vient d'arrêter trois jeunes et X kilos de je ne sais pas quoi, tout ça me semble dérisoire absolument. Alors simplement un instant, en dehors du 18 juin, je sens aujourd'hui que la société française est en train d'évoluer dans ce sens-là. Il faut réfléchir. Il y a des députés, y compris des députés de Marseille, qui ont analysé cette question et qui disent « il faudrait ouvrir le débat ». Moi, je ne dis pas la solution. Je dis « essayons enfin d'ouvrir le débat sur cette question avec les habitants des quartiers, avec des gens comme Mohamed, on y a déjà travaillé. Il faut, avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de réflexion, y compris avec les médecins, pour essayer de comprendre. Mais là, on a une solution indispensable. »
Mohamed Bensada, rapidement.
Rapidement, juste, je n'ai pas de solution claire en main sur le « qu'est-ce qu'on fait hein. ?» Donc, moi, je m'intéresse, parce que je suis pathologiquement partisan, à ce qui se passe à gauche. La primaire, les Républicains ne m'intéressent pas du tout. À gauche, je crois qu'on a deux gros défis à relever. Il y a cette espèce de rite sacrificiel par lequel il va falloir passer. Se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce PS. Je parle avec ce PS, ce PS qui est au gouvernement depuis 3 ans, qu'on va se coltiner 5 ans. Est-ce que vraiment on continue à considérer que c'est un partenaire de gauche en y mettant... le corpus idéologique de la gauche.
Hein, plus que 2 ans. Hein.
Plus que 2 ans. Mais bon, je, en même temps, je ne suis pas là à applaudir en espérant que Juppé arrive à la place. Quoi. Je suis vraiment dans un état de schizophrénie. C'est dur pour quelqu'un de gauche. Le deuxième gros défi à relever, c'est de savoir comment est-ce qu'on change notre discours. Parce que, étant membre du Front de Gauche, moi, je sais que l'intégralité, la quasi-intégralité des discours, des réflexions, des commissions qui sont organisées au sein des partis, que ce soit le parti de gauche, le PC, et voilà, qui sont les deux gros partis du Front de Gauche, se consacrent uniquement au monde du travail. On sait que les syndicats, c'est 7%. 7% des salariés. Et on sait que malheureusement, ce n'est pratiquement plus là que la gauche arrive à gagner des voix. Il y a un véritable désert politique, pas en termes électoraux, là, je ne parle pas en termes de réflexion politique, qui est à reconquérir, mais à reconquérir sincèrement, en se réimpliquant dans les quartiers populaires. On ne peut pas parler simplement de ce qui se passe dans les grandes usines, des plans sociaux, des licenciements, alors que ça n'est pas une réalité concrète dans la tête de millions et de millions de personnes dans ces quartiers-là. Donc moi, je les exhorte à avoir une réflexion sincère, réelle, et un retour à l'implication de terrain dans ces quartiers-là. La solution, elle passe par là, elle ne passe pas par ailleurs.
Ce que disait Alain Fourest, je schématise hein, beaucoup, ouais. Je caricature beaucoup. On passe de l'aide sociale pour ces quartier à l'argent de la drogue en légalisant le shit.
C'est même pas la schématisation, ça c'est de la caricature ça.
Tu me fais l'avocat du diable.
C'est pas de la schématisation, non. On a peut-être plus le temps de parler de ça, hein, l'histoire de la légalisation du cannabis. Nous on est pour, en tout cas Quartier Nord, Quartier Fort, pour une légalisation sociale. Ça veut dire qu'effectivement, on sait qu'il y a de l'argent, que c'est une formidable pompe à finances et que malgré tout, au-delà de toutes les considérations morales, il faudra bien comprendre que le cannabis aujourd'hui est une pratique culturelle largement diffusée dans la population française. Je suis désolé. Alors il faut se poser la question de savoir si c'est pire ou moins bien que l'alcool, mais ça c'est pas le débat essentiel. Le débat essentiel c'est comment on enlève la violence de ces quartiers-là. Et la violence de ces quartiers-là, nous, on a vu des expériences à l'étranger, même aux États-Unis qui sont réputés être beaucoup plus réactionnaires que nous, où ça marche, ça fonctionne. Et il y a même des retombées fiscales. Donc qu'est-ce que demande le peuple ?
Michel ?
Un jour, retour aux urnes ou jamais ? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit le cas, pour y revenir ?
Peut-être un jour un retour aux urnes, mais c'est à mon avis les règles du jeu qui doivent changer pour qu'effectivement les gens y retournent, et encore plus que ceux qui s'y présentent. pense que c'est effectivement là, il y a tout un long débat sur la question d'une sixième république ou qui pourrait prendre des formes absolument tout à fait différentes selon qui en parle. Mais effectivement, c'est les règles du jeu, du jeu politique qui font que plus personne n'a confiance dans les candidats, quels qu'ils soient, en fait.
Une question de confiance, et c'est avec ce mot-là qu'on va finir cette émission aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. Allez, plein de bonnes choses. Bye.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.